Amen, amen, amen.
Amen.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Amen.
Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il nous a encore renouvelé le souffle de vie ce matin.
Amen.
Il est bon. Comment ne pas le louer, l'adorer, l'acclamer? Il est digne de toutes ces choses parce que à part lui, il n'y a point d'autre. Il est le seul Dieu. Alléluia.
Amen.
Et nous croyons en lui et nous croirons toujours en lui tant que nous vivons. Voilà pourquoi nous devons lui donner des multiples actions de grâce. Amen.
Amen.
Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous accompagner encore ce matin. Merci pour ton amour infini. Merci pour tes bontés et tes bienfaits. Seigneur, je te rends toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, comme toujours, nous allons commencer par une louange. Alléluia, c'est une action de grâce que nous donnons au Seigneur.
Amen.
Dieu est merveilleux. Amen.
Amen.
Amen. Nous allons danser pour le Seigneur. Quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. quel que soit ce par quoi tu traverses, tu t'es peut-être dit, il m'a oublié. Non, il n'oublie personne. C'est ton impatience qui te fait dire que Dieu t'a oublié. Voilà pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être patients. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Dieu est merveilleux. N'attristons pas le Saint-Esprit par nos murmures ou par des paroles telles que « Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas ». Eh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais combien de fois Dieu t'aime, tu n'allais jamais dire ça. Tu n'allais jamais dire ça. Alléluia. Dieu est merveilleux.
Amen.
Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de ces temps. Visite quelqu'un ce matin. Viens parler à un cœur endurci ce matin. Viens parler à un cœur désobéissant ce matin. Ma prière pour nous, Saint-Esprit de Dieu, c'est que nous soyons ouverts, que nous soyons à l'écoute et que nous mettons en pratique ce que nous recevons du Saint-Esprit. Prends le contrôle, prends la première place et enseigne-nous, guide-nous, éclaire-nous ce matin. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Saluons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alléluia.
Alléluia.
Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie pour moi de me retrouver devant vous pour parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui bénit, la parole de Dieu qui guérit, qui restaure, qui régénère. La parole de Dieu qui nous fait du bien. Amen.
Amen.
Nous sommes toujours sur le même thème qui est la procréation dite verticale. C'est un thème très très long, mais ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est la naissance de Jean le Baptiste. Amen.
Amen.
Environ 700 ans avant sa naissance, il avait été annoncé par Ésaïe, alléluia. Donc, la naissance de Jean-Baptiste a été annoncée 700 ans avant Jésus-Christ, alléluia. Ésaïe nous le dit dans le livre, dans son livre, chapitre 40, à partir du verset 3 au verset 5. Ésaïe 40, verset 3 au verset 5, la parole de Dieu dit ceci, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés droits étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair lavera car la bouche de l'Éternel a parlé, parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons rappeler ce que c'est que la procréation dite verticale. La procréation dite verticale, c'est lorsque le Seigneur est l'acteur actif dans votre relation. Ça veut dire que c'est lui qui décide, donc nous sommes des acteurs passifs et la seule chose que nous avons à faire, c'est d'obéir à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Parce que Jean le Baptiste n'était pas n'importe qui, comme Samson, comme Jérémie. C'est vrai, il a cherché un ventre pour ses serviteurs, mais c'est Dieu qui les guidait tout le long de leur vie. Amen.
Amen.
Tout se passe au temps du roi Hérode le Grand. Zacharie, prêtre au temple de Jérusalem, a pour femme Élisabeth. Tous les deux sont de la tribu de Lévi, les descendants d'Aaron. C'est un mariage de famille, de proximité, comme l'exige la coutume et le principe révélé par Dieu dans Genèse 2, 21-23. Genèse 2, 21, 23. Verset 21, la parole de Dieu dit ceci, je lis la parole de Dieu avec respect. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Verset 22, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alléluia. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il a pris une côte de l'homme. Ça, c'est le mariage de proximité. Donc, c'est quand un homme va dans sa famille, la famille de son père, de sa femme, chercher une femme pour lui. C'est ce qu'on appelle le mariage de proximité. J'aimerais vous dire ceci, que l'homme et la femme ont le même nombre de côtes. Donc, une paire de 12 côtes chacun. Alléluia. Tous les deux étaient justes et observaient de manière irréprochable les commandements de Dieu. Luc 1, verset 1 à 6. Luc 1, plutôt verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Bien aimé, il nous faut toujours lire la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que ce que je dis, je n'ai pas inventé, mais c'est écrit. Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen.
Amen.
Mais il y avait un bémol. C'est quoi le bémol, bien-aimé dans le Seigneur? Le couple n'avait pas d'enfants. La femme était stérile et ménopausée et ils étaient avancés en âge. C'est ce que nous dit Luc 1, verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Scientifiquement parlant, Élisabeth ne pouvait plus faire d'enfants. Mais Dieu vient nous montrer sa puissance dans ce couple. Là où la main de l'homme s'arrête, Dieu prend le relais. Et lorsque Dieu prend le relais, il fait des choses étonnantes, il fait des choses extraordinaires. Alléluia.
Amen.
Zacharie fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Être appelé par le sort renvoie au choix divin. Mais nous sommes ici dans le mystère. Nous sommes dans un mystère. Amen. Je vous le rappelle. Et l'offrande des parfums se fait en deux temps. Exode 30, verset 7. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Hébreux 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Le rituel se passe au parvis, là où est assemblé le peuple. C'est à ce moment précis que Dieu dépêche l'ange Gabriel pour annoncer une nouvelle troublante à Zacharie. Alléluia.
Amen.
La naissance d'un fils et non d'une fille. Dieu est précis dans ce qu'il dit. Donc, c'est normal que Zacharie soit troublé. Il voit son âge, il se dit, mais comment est-ce que je peux encore engendrer? Alléluia. Voilà pourquoi, des fois, quand Dieu nous parle, on regarde nos limites. On se dit, mais je n'ai pas fait d'études, je ne peux pas. Mais je ne suis pas en bonne santé, je ne peux pas faire cette mission. Dieu savait que tu étais limité, Dieu savait que tu n'étais pas en bonne santé, mais lui, il vient te dire que c'est toi que je veux pour montrer ma puissance au monde. Alléluia. Peut-être que les médecins t'ont donné soit un nombre de jours à vivre, donc ton regard est sur ça, tu comptes les jours. Mais là, Dieu vient te dire, tu ne mourras pas. Tu dis, c'est pas possible, moi les hommes m'ont dit que je mourrai. Non. Tu mets la parole de Dieu en doute. Amen. Donc, voici le message de l'ange à Jean le Baptiste Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Alléluia. Mm-hmm. Donc l'ange a dit à Jean le Baptiste qu'il aura un fils et il lui donnera le nom de Jean. Pas une fille, mais un fils, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu est précis. Amen. Donc, dans ce message, Dieu, par son messager, nous donne le sexe de l'enfant, le nom que portera cet enfant et les consignes à respecter, car il sera consacré dès avant sa naissance, comme ce fut le cas de Samson vu précédemment. Amen. Amen. Après que Zacharie ait reçu la visite de l'ange en esprit, parce que Dieu parle en esprit, le démon du doute s'est emparé de lui. Il perdit temporellement la foi et pourtant c'est un prêtre, un descendant de Lévi, censé être fort à l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des êtres humains. On sait que Dieu peut tout, mais parce qu'on n'est pas sûr, on a déjà une idée dans notre tête que les choses se passeront comme ça, mais Dieu vient te dire le contraire, tu doutes. Il est toujours là, c'est cet ange déchu là qui te dit, mais regarde ton âge. Il devait certainement dire à Zacharie, mais regarde ton âge, qu'est-ce que cet ange-là vient te raconter? Il te raconte n'importe quoi. Donc il a douté, effectivement, il était âgé. Alléluia.
Amen.
Mais Dieu n'a pas vu son âge. Dieu a dit que c'est dans ce couple-là que sortira quelqu'un qui viendra préparer le chemin de son fils. Amen.
Amen.
À ce propos, que dit 1 Corinthiens 2, verset 14? 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit ceci. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doute. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'esprit, parole du Seigneur. Amen.
Amen.
Ces choses de l'esprit étaient une folie pour Zacharie. My God. Amen. Zacharie s'est dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas engendrer. Ma femme est âgée. Moi, je suis âgée. Et le doute est là, cet ange de Dieu est là en train de lui dire, mais c'est vrai ce que tu dis là, c'est vrai. L'ange est venu te raconter n'importe quoi. Bien-aimé, ayons le discernement et disons-nous toujours que lorsque Dieu nous parle, il sait pourquoi il nous parle, quelle que soit notre condition. Il n'agit pas comme les hommes, il vient pour confondre les grands de ce monde. Amen.
Amen.
Donc, à ce propos que dit 1 Corinthiens 2, verset 14, nous l'avons lu, « Ces choses de l'esprit étaient une folie pour Zacharie, car il fonctionnait en mode sens. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi son absence de foi lui a persuadé de demander un signe à l'ange. Ce dernier lui laisse entendre qu'il sera muet jusqu'à la naissance de l'enfant. » Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Luc 1, verset 63 à 64. Zacharie demanda des tablettes. Non, Luc 1, verset 18 à 20, excusez-moi. Luc 1, verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Vous voyez, le doute, à cause du doute, mais il est resté muet tout le long de la grossesse de sa femme jusqu'à ce qu'elle accouche. Alléluia.
Amen.
Donc, que le doute ne soit pas votre partage. Ne dis pas Dieu ne me parle pas. Dieu nous parle toujours en esprit. Il y a beaucoup qui disent Dieu ne me parle pas alors que Dieu leur parle parce qu'ils aimeraient voir Dieu face à face. Tu ne verras pas Dieu face à face. Dieu est esprit, donc il parle en esprit. Alléluia.
Amen.
Effectivement, lorsque l'enfant est né, Zacharie a retrouvé l'usage de la parole et c'est lui qui donna le nom de Jean. Alléluia. Luc 1, versets 63 à 64. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. Jean est son nom et ils furent tous dans l'étonnement. Donc, avant qu'il ne parle, Zacharie a demandé des tablettes pour écrire le nom de son fils, le nom que l'ange lui avait donné. Amen.
Amen.
Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Alléluia. Donc, il a d'abord écrit, après il a parlé. Amen.
Amen.
Maintenant, quelle sera la mission de Jean-Baptiste? Les Saintes Écritures nous informent que Zacharie est maintenant rempli du Saint-Esprit. Et Dieu va lui révéler la mission de son fils mentionnée dans un cantique, toujours dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 76 au verset 79. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Alléluia.
Amen.
Donc, je reprends le verset. Il dit, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'était la mission de Jean-Baptiste, pour préparer la voie du Seigneur, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Donc, Jésus est venu pour nous, pour le salut, pour notre salut. Alléluia.
Amen.
Par le pardon de ses péchés, les péchés du peuple. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, Jésus est venu nous montrer la voie du salut en nous pardonnant nos péchés. Alléluia. Il nous sort des ténèbres pour son illustre lumière. Amen. Donc, la mission de Jean-Baptiste, c'était de crier, alléluia, dans le désert et de préparer le chemin de celui qui devait venir nous sauver. La mission de Jean-Baptiste est de préparer la venue de Jésus-Christ, mais également de préparer l'homme animal ou celui qui fonctionne en mode sens et intelligence émotionnelle à faire la mue du serpent, c'est-à-dire de se débarrasser de la vieille peau ou ancienne habitude. Amen. Donc, c'est en passant par la repentance. Alléluia.
Amen.
Pour la nouvelle peau ou nouvelle habitude. C'est pourquoi il lance cet appel au Jourdain. Luc 3, verset 3. Et il allait dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des pécheurs, des péchés. Alléluia. Donc, Jean le Baptiste prêchait la repentance. Ça veut dire, sortez de vos mauvaises voies, cherchez maintenant la voie de Dieu et marchez selon ses commandements. Amen.
Amen.
Afin que les péchés soient pardonnés par Dieu. Le baptême de repentance est un baptême d'engagement qui concerne les personnes conscientes des fautes commises et qui veulent les réparer aux yeux de Dieu. Donc, si tu reconnais tes péchés et que tu veux changer d'attitude, tu veux marcher selon les voies de Dieu, tu es obligé de passer par la repentance. Donc, la repentance, c'est pour toutes ces personnes qui sont conscientes qu'elles ont commis des fautes et que pour accéder au salut, elles sont obligées de passer par le baptême de repentance. Amen.
Amen.
Ça n'a rien à voir avec le baptême des bébés. Les bébés, on les baptise, ils ne savent même pas pourquoi on les baptise. Donc, c'est quelque chose que les bébés subissent. Voilà. Mais lorsqu'on est grand, on est conscient de ce qu'on fait. Et quand on sait qu'on n'est pas dans la droiture, qu'on ne marche pas selon les directives de Dieu, il y a quelque chose qui nous est réservé par Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance. Le baptême vient du mot grec « baptizo », qui signifie « plonger », immergé dans l'eau. Le passage à travers l'eau est une forme de purification qui fait disparaître le mal dans la mort et qui donne la vie en ce qui est juste. En français facile, le rituel de l'immersion ou bain sacré symbolise la mort à une ancienne vie et la renaissance à une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Alléluia. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu es passé par le baptême d'immersion, mais tu as laissé tous tes péchés. Ouais. Donc tu sors, tu t'es rentré souillé, mais tu sors propre, tu sors renouvelé, tu sors restauré. Alléluia. Ouais. Galates 6, verset 15 nous dit ceci. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Donc, tu as beau dire, je suis circoncis, moi je suis enfant de Dieu et tout, mais si ton ancienne vie là t'accompagne toujours, ta vieille peau là t'accompagne toujours, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia, tu as fait ce baptême peut-être par effet de mode, parce que tes amis se sont baptisés, tu dis moi aussi je veux me baptiser, mais ta vie n'a pas changé. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci, on ne tombe pas Dieu. Hein? Jean le Baptiste renforce le baptême et invite les gens à vivre comme un acte de repentance où ils doivent éviter, premièrement, le superflu. Luc 3, verset 10. Luc 3, verset 10 dit ceci. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Jean le Baptiste dit de changer. Jean le Baptiste dit de passer par le baptême de repentance. Donc, les gens lui demandent, mais que devons-nous faire? Voilà la réponse de Jean-Baptiste. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agissent de même. Alléluia. Donc, l'ingratitude ne doit plus être ton partage, l'avarice ne doit plus être ton partage. Amen. C'est-à-dire que le superflu que tu as là, ne garde pas ça pour toi, partage avec ceux qui n'en ont pas. Amen. Donc, il dit premièrement le superflu. Deuxièmement, éviter les pots de vin. Luc 3, verset 12 dit ceci. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur répond. Il leur répondit. N'exigez rien au-delà de ce que, qui vous a été ordonné. Amen.
Amen.
Comme Zachée, quand Zachée a voulu changer de vie. Amen. La foule n'était pas un obstacle pour lui. Sa petite taille n'était pas un obstacle pour lui. Il a couru vers Jésus. Alléluia, parce qu'il voulait changer de vie. Et voilà ce qu'il dit à Jésus dans Luc 19, verset 8 à 10. Zachée dit ceci. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il voulait vraiment changer de vie, hein, parce qu'il n'avait pas une bonne renommée. Alléluia.
C'est ça.
Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Amen.
Amen.
Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. L'homme t'a condamné, l'homme t'a jugé, mais lui, avec tout tes défauts, il te prend. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que « Car Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit ait la vie éternelle. » Et le verset 17 nous dit que « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, alléluia, pour, dans le monde pour qu'il juge, mais pour que le monde soit sauvé. » Donc, toi qui te dis que Dieu ne me voit pas, je fais tellement de mauvaises choses, c'est que tu refuses sa main. Il est venu pour toi, qui est voleur, qui est menteur, qui est prostitué, qui est injuste, qui est... Il est venu pour toi. Il n'agit pas comme les hommes. Si tu es voleur, tu fais la prison forcément. C'est vrai que le péché est pardonné, mais il ne reste pas impuni. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus ne t'accueille pas dans sa bergerie. Mais souvent, nous disons, oui, mais les hommes, mon entourage m'a déjà dit que je ne réussirai pas. Donc, tu t'appuies sur la parole de l'homme. Dieu te dit, mon enfant, tu vas réussir. Tu regardes ta condition. Je n'ai pas été à l'école. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas belle. Je ne sais pas parler. Comment? Mais Dieu est venu pour toi. Dieu est venu pour toi. Dieu est merveilleux. Pourquoi je ris? Je ris parce qu'on connaît ces choses, mais le doute est toujours là pour nous contrôler. Comme Zacharie, il a douté, il a regardé à son âge, il a regardé à l'âge de sa femme. Effectivement, scientifiquement parlant, tu ne peux pas enfanter à 65 ans. Hein? Tu es vieux, tu es vieille. Mais Dieu... Et puis, bien aimé dans le Seigneur, dans cette vie-là, il faut éviter les frappes, il faut éviter de prendre ce qui ne vous appartient pas. Donc, lorsque tu passes par le baptême de repentance, tu dois sortir une personne nouvelle. Tu ne peux plus continuer à vivre ta vie comme tu la vivais. Cette ancienne vie est enterrée. Tu marches maintenant en nouveauté de vie.
Amen.
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 Dieu est merveilleux. Donc, en conclusion, par la procréation verticale, Dieu a préparé longtemps avant Jean-Baptiste pour aplanir le chemin de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 4, 17, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne refusez pas le message de la repentance. C'est par la repentance qu'on accède au salut. Si tu refuses de te repentir, ça veut dire que tu as déjà choisi ton chemin. Tu ne peux pas venir devant la présence de Dieu et commencer à dire, Seigneur, regarde ma situation, je veux ci, je veux ça. Tu sais que tu es pécheur. Reconnais d'abord que tu es pécheur. Tu te repentes et après tu t'adresses à ce grand Dieu. Mais tu ne viens pas sale comme tu es et puis tu viens lui demander et jusqu'à dire, mais si vraiment tu vivais, tu étais vivant, si vraiment tu étais Dieu, je ne souffrirais pas, je ne passerais pas par cette situation. Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Et donc ce matin, la repentance doit être ton partage. Tu dis, je ne parle pas, je ne veux pas chez les gens, je suis que chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, ça c'est ce que tu montres, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Pourquoi Dieu te dit ce matin de te repentir? Pourquoi il insiste en te disant repends-toi? Parce que ce que tu fais dans le secret, lui, il le voit. Nous ne le voyons pas. Alléluia.
Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut ton bien. Quand le Seigneur dit revenez à moi, revenez à moi. Parce qu'il veut que vous vous détournez de vos mauvaises voies. Il nous supplie, il dit, revenez à moi. Parce qu'il nous aime. Il dit qu'il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut tout simplement que le méchant change de voie. Donc si le méchant reconnaît que ce qu'il fait, ce n'est pas bon, qu'il cherche véritablement la face de Dieu, qu'il se repente, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va pardonner ses péchés. Donc, la repentance, on ne doit pas refouler ce message. Nous sommes fatigués de l'entendre, mais c'est par la repentance que nous accédons au salut. C'est par la repentance que nous arrivons à voir Dieu. Alléluia.
Amen.
Dieu te parle ce matin. Toi qui écoutes ce message, toi qui es en train de douter, Dieu te parle. Là, il ne te parle pas en esprit. Il passe par moi pour te dire que repends-toi. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Jean le Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Il n'a pas donné un autre message que la repentance. Il n'est pas venu pour nous parler du mariage. Il n'est pas venu pour nous parler du travail. Il n'est pas venu pour nous parler de... Non, il est venu nous parler de la repentance. C'est après la repentance que tes péchés là sont pardonnés, que tu auras du travail, que tu auras le mariage et tout. Mais la repentance est primordiale. Pour toi qui te dis enfant de Dieu, il y a des enfants de Dieu pour eux. Pourquoi je vais me repentir? Mais comment vous aimez vous poser cette question? C'est écrit. Jésus, quand il a commencé son ministère, dans Matthieu 4, 17, il a dit quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est écrit. Alors sortons de nos murmures. Sors de ton orgueil. Jean-Baptiste avait une mission, et c'était ça sa mission, de préparer le chemin. Il prépare le chemin comment? En nous avertissant, en disant sortez de vos mauvaises voies, cherchez vraiment Dieu, il arrive. Alléluia.
Amen.
La repentance est la condition première pour être connecté à Jésus-Christ. La seconde étape, c'est définir son identité dans la foi. Dans la foi en Jésus-Christ. Romains 10, versets 9 à 11, voici ce que la parole de Dieu dit. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais si tu ne confesses pas, si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Dieu ne sera point confus. Donc quiconque là, excusez-moi, quiconque c'est tout le monde, c'est pas seulement les enfants de Dieu. Quiconque croit en Dieu ne sera pas confus. Confus. Vous voyez, même Jean 3, 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque... Donc, Dieu ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Il s'adresse à tout le monde. Quiconque. Alléluia.
Amen.
Puisque qui nous a créés, c'est Dieu. Il n'a pas créé les chrétiens. Il a créé le monde entier. Dans ce monde-là, il y a tout. Il y a ceux qui sont athées, il y a ceux qui sont chrétiens, il y a ceux... Alléluia. Donc, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus sera sauvé. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en ce message? Jean le Baptiste est venu t'avertir. Jean le Baptiste est venu préparer le terrain. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas été averti. Amen.
Amen.
Donc, cela nous amène... Ce n'est pas parce qu'on croit en Christ que nous allons renier nos ancêtres, notre langue ou notre culture. Non. Mais crois en Jésus. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Alléluia.
Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le doute ne soit pas ton partage. Crois que Jésus t'aime. Crois que Jésus est venu pour toi. Toi qui es rejeté, toi qui es humilié, toi qui es abandonné. Ce sont les hommes qui t'ont humilié, qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté. Mais pas Jésus. Mais pas Jésus. Mais vous savez, il y a des personnes qui me donnent leur témoignage. Et quand vous écoutez les témoignages de ces personnes, humainement parlant, Vous dites que cette personne, on ne peut pas pardonner ses péchés. On ne peut pas, c'est même une personne avec qui on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher avec cette personne parce que cette personne a fait des choses tellement ignobles. Mais c'est cette personne que Jésus cherche. Jésus se révèle à ce genre de personnes. Jésus pardonne leurs péchés. Jésus leur parle. Jésus leur dit, allez évangéliser. Ils ne évangélisent pas seulement avec les paroles, mais il y a le témoignage qui accompagne. Alléluia. Amen. Certains diront, c'est n'importe quoi, c'est peut-être du mensonge. Non, on a trop cette habitude de dire, c'est du mensonge, c'est faux. Non, c'est des vrais témoignages. Je ne viens pas raconter ma vie. Je vous dis ce que j'ai vu. Et je connais des personnes qui ont été vraiment des personnes qui ont fait des choses terribles. Mais Dieu a posé sa main sur eux, sur elles, ces personnes. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui gagnent les âmes à Christ, pas seulement par la parole de Dieu, mais par leur témoignage. C'est-à-dire que leur témoignage parle. Et Dieu agit. Amen. Donc, j'aimerais dire ceci à quelqu'un qui est chrétien, mais qui est découragé et qui veut lâcher la main de Dieu. J'aimerais lui parler. Et j'aimerais m'adresser aussi à quelqu'un qui écoutera ce message, qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. J'aimerais lui dire ceci. Donne ta vie. Parce que sans Dieu, tu es perdu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, c'est la confusion. C'est la mort éternelle. Vous voyez, les riches mourront. Les pauvres mourront. Les célébrités mourront. Les oubliés, les puissants comme les humbles, tous mourront un jour. Aucune richesse ne peut acheter un jour de plus. Aucun statut ne peut prolonger ton souffle. Personne n'échappe à la réalité de la mort. S'il y a une vérité plus forte encore, ceux qui croient en Jésus-Christ auront la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort, dit Jésus dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 25, jusqu'au verset 26, je vais lire la parole de Dieu. Jésus s'adressa ici à Marthe. Il dit, Jésus lui dit, Jean 11, verset 25 à 26, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela ?» Il a posé cette question à Marthe. Marthe a dit oui. Et moi, je te pose cette question. Crois-tu en cela ? Crois-tu que si tu crois en Jésus, tu vivras ? Je crois que ta réponse est oui. Et j'aimerais que tu dises oui.
Oui.
Ta condition sociale ne détermine pas ta destinée éternelle. Mais la foi en Jésus, oui. La plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir pauvre, alléluia. Ce n'est pas de mourir jeune, c'est de mourir sans Jésus. Ça, c'est la plus grande tragédie. Une vie sans Jésus, c'est la perdition, c'est la confusion, ce sont les ténèbres, c'est la mort éternelle. Alléluia. Mais aujourd'hui encore, j'aimerais te dire ceci. La grâce est disponible. Jésus t'appelle. Il veut te sauver. Il est mort à la croix pour tes péchés. Il est ressuscité pour te donner la vie. Amen. Il t'offre le pardon, la paix et la certitude de l'éternité. Choisis la vie. Choisis Jésus. Invite dès aujourd'hui à devenir ton sauveur et ton Seigneur. Ce matin, j'aimerais que tu rentres dans la bergerie. Donne ta vie à Jésus, car avec Jésus, c'est la vie éternelle. Et sans Jésus, c'est la mort éternelle. Alléluia.
Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, J'aimerais que tu acclames ces Jésus qui t'a fait du bien ce matin. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit ne crains point. Tous les jours, c'est le verset que Dieu nous donne. Ne crains point. Car il est avec toi. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui t'empêche de te donner totalement à Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te dire ceci. Ce ne sont pas tes richesses qui vont te sauver. Ce n'est pas ta condition sociale qui va te sauver. Ce n'est pas ta beauté qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. C'est de croire en lui. Il ne nous a pas promis une vie sans tribulation. Il a dit dans sa parole que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc s'il nous dit ça, c'est qu'on ne passera pas des tribulations. Alors pourquoi nous disons, si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait plein de choses, mais Dieu existe. Ce n'est pas Dieu qui enfante le mal. C'est l'homme animal qui est en toi, qui se réveille lorsque tu n'as pas ce que tu veux. Alors cet homme animal te pousse à te poser des questions qui ne font que te séparer de Dieu. Et tu vas chercher les solutions ailleurs. Et donc tu réveilles tes sens, tu réveilles tes émotions et tu te perds. Et tu te perds. Et lorsque tu te perds, c'est la mort éternelle. Crois en Dieu et tu seras sauvé. Crois en Dieu et tu réussiras. Crois en Dieu et tu auras la bonne santé. Même si tu souffres, même si tu as des douleurs, toi qui es en Jésus, tu supporteras ces douleurs parce qu'il est avec toi. Mais celui qui n'est pas Jésus va passer son temps à pleurer. Pourquoi? Parce que la souffrance est là, la douleur, elle est là. Mais avec Jésus, il t'apaise, il te donne la paix du cœur dans ta souffrance. En te disant ceci, ne crains rien. En te disant ceci, je suis avec toi. En te disant ceci, je t'aime mon enfant. Crois-tu en l'amour de Dieu? Crois-tu en sa puissance? Crois-tu qu'il existe? Crois-tu qu'il est venu sur cette terre pour toi, qui est rejeté, qui est humilié? Crois-tu qu'il est venu ici pour te sauver et non te condamner et juger? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis oui.
Amen. Amen.
Aujourd'hui, Dieu parle à son enfant. Dieu parle à son fils. Dieu parle à sa fille. Tu es certainement son fils. Tu es certainement sa fille. Il te parle ce matin. Parce qu'il a vu tes larmes. Il a entendu tes cris. Mais ce qui le dérange, c'est le doute qui est en toi. Ce sont les murmures que tu n'arrêtes pas de faire. Mais il vient encore te rassurer. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Alors il essuie tes larmes. Il te redonne la paix que tu avais perdue. Il te redonne la joie. Et il te dit, marche. Avec assurance. Tu n'es plus seul. Je suis avec toi. Je marche devant toi. Je te dévance dans tout ce que tu fais. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que le doute ne soit plus ton partage.
Amen.
Jésus a dit à Marthe, crois-tu en cela? Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Tu crois qu'il est vivant? Nous prêchons, nous prions un Dieu mort et ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité pour toi. Alors je prie que malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré tout ce par quoi tu passes, qui peuvent te pousser à renier Dieu, je prie que cela ne soit pas ton partage, mais que tu aies toujours confiance en lui. remets tes œuvres à l'Éternel. Tu es fatigué de cette situation, my God. Dieu parle ce matin. Il dit dans sa parole, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il te parle à toi. Dieu a vu beaucoup d'enfants cette nuit en train de pleurer, en train de dire, Seigneur, tu nous as oubliés. Il ne t'a pas oublié. Il te dit, ne crains point. Je t'aime. Je suis avec toi. Vous voyez, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas avoir des tribulations, qu'on n'aura pas des adversités. Beaucoup de personnes pensent que quand on est chrétien, pour prouver vraiment que nous sommes chrétiens, c'est de rouler dans de belles voitures, d'habiter dans de belles maisons, faire des voyages à tout bout de champ et tout. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On ne pense pas au changement que Dieu fait au-dedans de nous. Regarde-toi qui étais voleur, qui t'es rejeté par ton entourage. Les gens cherchaient même à ce que tu meurs parce que tu étais la honte. Mais Dieu, quand tu l'as cherché, tu as rencontré son fils Jésus, il te transforme. Il te donne la capacité de ne plus voler. Il te montre son amour. Il te dit, les hommes t'ont rejeté parce que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Selon la justice, ce n'est pas bon. Tu peux faire la poudre. Mais moi, je suis venu pour toi. D'où l'importance du baptême de la repentance. Et lorsque tu sors du baptême de la repentance, tu es une nouvelle personne, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors lorsque Dieu passe par toi, il te lave. Il te change d'identité. Et ce que Dieu fait étonne. Et ton entourage est étonné. De te voir et de dire, mais c'était lui là le voleur, c'était lui, oui c'était toi, c'était, mais tu n'es plus, parce que Jésus t'a transformé, Jésus t'a restauré, Jésus t'a guéri, et il t'établit, il t'a dit, tu parleras maintenant de moi, et pourtant, tu n'étais pas cette personne, mais Jésus est venu étonner ton entourage. Alors ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ta condition. Ce boiteux qui attendait d'être guéri dès que la piscine de Bethesda bougeait parce que l'ange venait, il ne pouvait pas se lever. Il y avait toujours quelqu'un qui passait avant lui. On dit qu'il était là depuis 38 ans. Quand Jésus est passé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a commencé à raconter sa vie. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit quoi? Prends ton lit, lève-toi et marche. Les gens étaient étonnés. Mais c'est bien lui qui était assis à la porte de Belle et tout. C'est lui. Et donc les gens diront aussi, c'est toi. Mais c'est pas lui, hein? Mais oui, tu diras, oui, c'est moi. Comment tu as fait? Un seul nom sort de ta bouche. Jésus. Jésus. Et tu le dis avec le sourire, tu le dis avec assurance. Jésus te transforme ce matin parce que tu lui as dit, oui, Seigneur, je veux être ton enfant. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Maintenant que je t'ai rencontré, Seigneur, je veux marcher selon tes directives. Je veux marcher selon tes commandements. Seigneur, prends-moi dans ta bergerie. Et il te dit, mon enfant, tu es sauvé. Marche maintenant en nouveauté de vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux et Dieu nous aime. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, te glorifie et te magnifie encore ce matin, parce que tu es Dieu. Parce que Seigneur, Dieu de gloire, tu viens de redonner le sourire à quelqu'un qui l'avait perdu. Tu viens d'essuyer des larmes à une personne qui pleure depuis des années. Tu es venu relever quelqu'un qui est tombé. Voilà pourquoi je te rends toute la gloire. Et je sais que tu n'oublies personne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'exaltation. Et tu es digne de magnificence. Merci pour toutes ces personnes que tu as visitées ce matin. Je bénis ton Saint-Nom pour ces personnes qui sautent de joie en ce moment. Qui ont reconnu finalement que sans toi, ils ne sont rien. Qu'avec toi, on peut tout. Et qu'avec toi, c'est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois en cela, acclame ton Dieu depuis ta position. Et dis-lui merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, nous sommes à la fin de notre culte. Dimanche prochain, nous parlerons de la naissance de Jésus. Et je crois que nous allons clôturer le thème « La procréation dite verticale » pour passer à la procréation dite horizontale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée. Je recommande cette semaine au Seigneur qu'elle soit une semaine remplie de paix, de joie, d'amour et que notre regard soit toujours fixé sur Jésus. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Soyez divinement bénis. Amen.
Amen, amen.